Chapitre 12. Rosalie mit une heure à choisir son vêtement, coiffer ses boucles brunes et nettoyer ses ongles avant de se décider à aller voir le curé. Quand elle descendit dans le magasin vêtue de sa robe du dimanche en beau coton vert strié de jaune pâle, ses frères Girola et William l'interrogèrent aussitôt. « Pourquoi t'es habillée chic de même? Où tu vas? » « Pas que ce soit de vos affaires, » répondit Rosalie en se coiffant de son beau chapeau de crêpe piqué. « Mais je vais voir monsieur le curé. »«
Le curé? Oh oh, tu t'en vas confesser tes péchés, ma sœur? Le dimanche suffit pas parce que t'en as trop? »
rigola William en poussant son frère du coude. Le grand Girola s'approcha de sa cadette pour railler à son oreille. « Tu lui parleras de ton attachement au beau Freddy. » Rosalie rougit et poussa rudement son aîné.
« Niaiseux, arrêtez donc. Il veut juste parler de mon avenir. Vous êtes jaloux parce qu'il s'intéresse pas à vous deux. Puis que je vous vois pas en parler à papa ou à maman. Ils sont partis à Gaspé et c'est tant mieux. »
Pendant que ses frères riaient en se tapant dans les mains, la pauvre Rosalie sortit du magasin le cœur battant. Passant devant le garage, elle salua les trois hommes qui patientaient dehors en fumant une cigarette. Tous la suivirent des yeux alors qu'elle montait la côte du Sureau. Il faut dire que la jeune taillefer arborait une silhouette avantageuse, avec ses longues jambes et ses hanches rebondies. Les villageois retinrent un soupir en se rappelant le corps de leur épouse avant les multiples grossesses.
« Bonjour, ma belle-fille, tu t'en vas où en dimanche de même? Hein? »
s'informa Lucienne qui croisa Rosalie à mi-chemin dans la côte. « À l'église, » répondit la jeune sans s'arrêter.
« Ah bon?
Ouais. » Restant sur son appétit, Lucienne attendit que la fille de Gaston lui donne un peu plus d'informations. Malheureusement, celle-ci n'en avait pas l'intention. Tout à son inquiétude, Rosalie ne jeta même pas un regard à la mer qui brillait sous le soleil de l'après-midi. Elle réfléchissait au même rythme que ses pas la menaient au lieu de son rendez-vous. Quand l'église blanche fut en vue, la jeune arrêta et vérifia sa tenue. « J'aurais peut-être dû enfiler une veste pour cacher mes bras. » songea Rosalie en mordillant sa lèvre. Comme il était trop tard, elle leva la tête avec courage et longea le bâtiment pour se rendre jusqu'à la maison qui servait de résidence au curé du village depuis toujours. Inspirant profondément, Rosalie leva sa main fine et cogna à la porte. « Il a peut-être oublié son invitation ?» espéra la femme en serrant nerveusement ses mains l'une contre l'autre. Toutefois, à peine quelques secondes plus tard, Jacqueline apparaissait sur le seuil de la maison. L'homme de grande stature observa la jeune femme qui lui faisait face, avant de sourire gentiment.
« Bonjour, mademoiselle Taillefer. Je suis content de voir que vous avez accepté mon invitation. »«
Ça me fait plaisir, monsieur le curé. »«
Pas que j'aie vraiment eu le choix. » songea plutôt Rosalie, en consentant à prendre place sur le banc adossé au mur de bois de la maison.
Le curé connaissait assez ses ouailles pour savoir qu'il ne serait pas de bon ton de faire entrer une jeune femme dans sa maison.
« Si ça ne vous dérange pas, on va rester dehors. Il fait beau aujourd'hui et on n'a pas besoin d'aller s'enfermer dans l'église. »
Soulagée de ne pas passer au confessionnal, Rosalie fit un sourire radieux qui atteignit Jacqueline Gérard directement au cœur. Il ne comprenait pas ce qui se passait chez lui. Jamais il n'avait ressenti un tel attrait pour une femme de son entourage. En offrant sa vie au Seigneur, le grand blond savait qu'il n'aurait ni épouse ni enfant. Si ses parents avaient été bien fiers de son choix, il n'en demeurait pas moins que son père, Marcelin, avait exprimé sa tristesse une seule fois.
« Ça veut bien dire que les Gérards vont s'éteindre avec vous autres, ça. »
Mais l'éclat de Rosalie Taillefer lui tailladait le corps. Lorsqu'elle dardait son regard brun dans le sien, Jacqueline avait envie de la serrer contre lui. Replaçant sa mèche blonde sur le côté de son front, l'homme se racla la gorge et demanda
« Alors, mademoiselle, parlez-moi de vos prétendants. »
Assise dans son salon, toute lumière fermée, Clémence n'avait plus de larmes à verser. Après le choc initial qui avait suivi l'annonce de M. Henri, l'employeur de Sylvestre, elle était ressortie de l'imprimerie et s'était rendue à l'hôpital, l'esprit embrumé. « C'est certain qu'il y a une explication », avait-elle pensé. « Sa mère ou quelqu'un de sa famille doit être malade et il a dû quitter Rimouski en vitesse sans avoir le temps de me prévenir. » Elle avait effectué sa journée de travail et les suivantes comme une automate.
Chaque soir, elle était retournée chez elle pour attendre, l'espoir au fond du cœur. Une lettre, un télégramme devraient lui parvenir sous peu. Elle en était convaincue. Ce fut au bout de 3 semaines seulement, alors que Clémence avait envie de se rouler en boule sur le sol pour pleurer sans relâche, que la missive tant attendue était enfin arrivée. 9 septembre 1935. Très chère Clémence, j'imagine que tu sais à présent que j'ai quitté la ville de Rimouski. Je dois être lâche, mais je ne peux pas concevoir notre vie ainsi jugée par tous. Quand même les policiers me considèrent coupable alors que je n'ai rien fait, comment peut-on penser que la société sera d'accord avec notre relation? Tu me diras que ma mère et mon père étaient plus forts que moi. Je te répondrai que oui. Je préfère cesser de te voir plutôt que de subir cette pression constante qui nous suivra toute notre vie. Je te souhaite de trouver l'amour, un amour blanc qui te causera beaucoup moins de soucis. Adieu, Sylvestre. Angèle, l'amie et compagne de travail de Clémence, fut la seule personne à qui elle se confia. Après avoir écouté ses lamentations et sa détresse, elle lui avait sagement répondu « Peut-être que c'est mieux ainsi, Clémence ?»« Non », avait pleuré l'amoureuse éplorée. « C'est Sylvestre, mon homme, celui que je veux marier, personne d'autre que lui. » Sa copine avait tenté de la consoler du mieux qu'elle avait pu. Pour les avoir chaperonnés à quelques reprises, elle était bien consciente de l'amour qui existait entre ces deux êtres. Mais elle savait aussi que les couples interraciaux étaient jugés bien durement par le clergé et le peuple québécois. Angèle regrettait d'avoir attiré l'attention de sa jeune collègue sur cet homme noir lors de sa première visite à l'hôpital. Elle avait donc tenté de remonter le moral de son amie en lui disant « Peut-être que tu pourrais retourner dans ton village, le temps que ta peine se dissipe. » « Ça arrivera jamais, et c'est pas une virée à l'anse à la joie qui va m'aider. » s'était lamentée Clémence. Malgré cette affirmation, la jeune femme qui traînait son corps et son chagrin chaque jour à l'hôpital en n'ayant que très peu dormi, avait fini par informer la sœur responsable des secrétaires qu'elle voulait prendre quelques jours de congé pour aller voir sa famille. D'abord réfractaire à l'idée de laisser partir son employé, la femme avait changé d'idée lorsqu'elle avait appris que le frère aîné de Clémence était le curé du village. « Vos vacances sont tout de même assez récentes, mademoiselle Gérard. Mais puisque votre frère désire votre présence à ses côtés, je vous propose de partir une semaine. Mais je vous attends à votre poste le 25 septembre sans faute. Est-ce bien clair ?» Clémence avait acquiescé, sans savoir ce qui adviendrait de son futur. Après avoir jeté quelques vêtements pêle-mêle dans sa vieille valise, la femme avait annoncé son départ au docteur Marien, en gardant les yeux baissés pour éviter qu'il ne remarque la rancœur qui s'y trouvait. Après tout, c'était à cause de gens comme lui que Sylvestre avait décidé de mettre un terme à leur relation. Sans même aviser sa famille, Clémence avait grimpé dans un autobus pour retourner dans son village natal. Un jour, « tu reviendras. Je le souhaite de tout mon cœur, Sylvestre, parce que sans toi dans ma vie, celle-ci vaut pas tellement la peine d'être vécue. » Quand elle mit les pieds à Percé, le mercredi 18 septembre, Clémence regrettait déjà son geste impulsif. Elle aurait dû partir pour la ville de Québec à la place et tenter de retrouver son amoureux pour lui faire entendre raison. Mais faisant contre mauvaise fortune bon cœur, elle s'avança pour faire la bise à son oncle, la seule personne mise au fait de son arrivée. Devant la mine chiffonnée de sa nièce, Jean-Julien comprit que la situation était grave. Il la serra contre lui et Clémence laissa échapper un sanglot. « Il est parti, mon oncle. Mon amour est parti. » Pendant la route jusqu'à Lons-à-la-Joie, le photographe imprimeur tenta de comprendre le discours décousu de sa jeune nièce, qui ne cessait de pleurer, ressassant son malheur. « Sylvestre est à Québec, mais il reviendra bientôt, j'imagine, » questionna Jean-Julien.
« Non, il a écrit que c'est trop difficile d'aimer une blanche. »
« Ah bon? Pourtant, il me semblait pas du genre à abandonner. »
« C'est vrai, hein? Oh, peut-être que c'est de ma faute, hein, mon oncle. J'ai accepté bien trop vite sa décision. J'aurais dû essayer de le retenir. »
Clémence essuya ses joues mouillées et tourna sa tête vers son oncle qui, lui, fixait le chemin en pestant contre la carriole devant lui qui roulait à 5000 à l'heure.
Une grande consternation avait envahi Jean-Julien en réalisant que l'amour vrai entre sa nièce et Sylvestre Ballant n'avait pas survécu aux préjugés. Il tapota la main de sa nièce qui serrait ses doigts frénétiquement.
« Je pense que je devrais retourner à Rimouski, mon oncle, et sauter dans un train pour Québec. Qu'est-ce que t'en penses? »
Maintenant tournée sur la banquette pour regarder Jean-Julien, la jeune femme attendait son accord, et elle fut bien déçue lorsque ce dernier répondit « Ma fille, je crois que ce serait mieux que tu en parles avec tes sœurs. Elles sont mieux placées que moi pour te donner des conseils de ce genre. Tu sais, moi, à l'amour, je connais pas grand-chose à ça. Si Sylvestre a choisi de partir, peut-être que... c'est pour le mieux. Clémence alluma une cigarette malgré le regard sévère de son oncle. Elle fit une telle moue qu'il lui envoya un signe de la main qui signifiait « c'est bon pour cette fois-ci ». Insufflant avidement, elle laissa son regard errer sur le fleuve. Pour une rare fois, la vue du rocher percé et de l'île Bonaventure n'eut pas l'effet apaisant habituel chez elle. La jeune femme se sentait envahie par une grande lassitude, mêlée à une colère sourde. Mais comme elle l'avait promis à son amie Angèle, elle décida de tenter de se changer les idées. Clémence oublia donc sa peine le temps de questionner subtilement son oncle, en songeant aux quelques mots qu'elle avait lus dans le cahier trouvé sur le sol de la chambre de Jean-Julien lors de sa dernière visite. « C'est vrai, mon oncle, que t'as jamais eu de fiancé? Pourquoi donc? » Jean-Julien savait qu'au village de Lens-à-la-Joie, sa situation d'éternel célibataire avait beaucoup fait jaser. On ne se gênait pas pour se moquer du vieux garçon qu'il était. Même lui n'avait jamais compris pourquoi aucune villageoise n'avait fait vibrer son cœur au cours de sa vie. Il aurait pu, comme bien des hommes, choisir une épouse pour lui donner des enfants, s'occuper de sa maison. Mais à la différence de la plupart de ses voisins, Jean-Julien n'avait pas voulu agir par dépit. La seule qui avait enflammé son cœur, qu'il aurait pu aimer, était déjà prise. Après Marguerite Deslongchamps, il avait décidé de vivre seul. Il haussa les épaules puis replaça son chapeau sur sa tête pour se donner une contenance avant de répondre à sa nièce. « Oh, c'est pas parce que je l'ai décidé, mais la vie a fait que j'ai jamais rencontré la bonne. T'as même pas eu une prétendante? » Jean-Julien secoua la tête en la tournant vers la fenêtre pour éviter que sa nièce voie son visage. L'homme voulait changer de sujet, mais comme Clémence avait au moins arrêté de pleurer, il se dit que c'était mieux ainsi. Elle fumait sa cigarette avec un plaisir manifeste, et le photographe s'empêcha de la réprimander de nouveau sur cette habitude peu élégante. Il répondit donc à la question de Clémence sur un ton léger, même si le visage vague de Marguerite lui apparut furtivement. Il s'assura de se moquer un peu de lui-même en affirmant « Mais non, même pas une seule amoureuse. J'imagine que les femmes du coin aiment pas tellement les maigres à moustaches. Oh, arrête, mon oncle. Je suis sûre que plusieurs auraient aimé marier un photographe au lieu d'un pêcheur. En tout cas, continua tristement Clémence, c'est mon avis. T'as juste pas trouvé la bonne. Mais il n'est pas trop tard. » conclut la jeune femme en faisant un clin d'œil affectueux à son oncle. Le duo cessa de parler, Jean-Julien et Clémence étant perdus dans leurs pensées. La réalité d'un amour perdu ne cessait de venir les envahir. La gorge nouée par la mélancolie, le conducteur sifflota pour masquer son malaise. Le reste de la route entre Percé et Lens-à-la-Joie se déroula sans échange de paroles. Quand enfin la voiture arriva sur le chemin principal, Clémence soupira avec lassitude. « Quand je pense que j'étais ici il y a moins de 2 mois, j'avais pas l'intention de revenir aussitôt. En tout cas, pas sans Sylvestre. C'est Jacqueline qui va être satisfait. Il était le premier à critiquer notre amour. Je comprendrai jamais ça que des curés ouvrent si peu leur cœur. Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pas « tu aimeras ton prochain s'il te ressemble ». Ils sont où leurs grands principes devant la différence, hein? Tiens, laisse-moi donc ici, mon oncle. Je vais aller à la grave voir si Simone ou Madeleine y sont encore. L'homme immobilisa sa voiture devant son petit studio de photographie à côté du magasin Taillefer. T'es certaine que tu veux pas aller porter ton bagage à la maison avant? Non, non. Laisse-le dans la voiture et je le rentrerai plus tard. Jean-Julien éteignit le moteur de l'automobile et avisa sa nièce. « Dans ce cas-là, je vais retourner travailler un peu. Quand Gaston est venu me dire que tu voulais que j'aille te chercher à Percé à 4 heures, j'avais commencé à développer mes photos pour mes prochaines cartes postales.
Je dis que ça marche bien, mon affaire, mais c'est plus de travail que j'aurais pensé.
Tant mieux, alors. Bon, je te retrouve à la maison un peu plus tard. Je ferai des galettes de patates pour accompagner ton poisson.
Heureux d'avoir un peu de compagnie, même si sa nièce risquait de ne pas avoir le moral au beau fixe, Jean-Julien la salua alors qu'elle s'éloignait vers la côte Gaspé. La marée était montante et les enfants qui avaient terminé l'école couraient sur la plage de Galais en évitant le ressac. Les sacs de cuir des écoliers avaient été lancés près de leur mère qui débarrassait les sennes des maquereaux qui serviraient de bouettes pour le reste de la saison. Les sorties en mer se termineraient pour la plupart des hommes vers la fin du mois d'octobre. D'ici là, les femmes feraient sécher les dernières morues sur les vigneaux afin de les préparer pour la vente. Arrivée sur la grave, Clémence mit sa main en visière au-dessus de ses yeux pour trouver ses sœurs parmi toutes les villageoises qui s'activaient sans relâche.
« Je te dis que c'est tout un changement, les avoir une à côté de l'autre. »«
Ah, je vois Madeleine.
Mon doux, elle est énorme !» Observant la jumelle qui soulevait un bac de bois rempli de viscères, la jeune châtaine réalisa que la naissance de son deuxième enfant se produirait avant Noël. La femme enceinte venait justement de déposer sa charge pour frotter le bas de son dos et s'étirer en grimaçant. Tournant son visage vers le chemin, Madeleine aperçut sa cadette et elle fronça les sourcils avec surprise avant de lever le bras bien haut. Clémence sentit un sentiment d'échec l'envahir, en pensant qu'il lui faudrait expliquer de nouveau sa présence à Lens-à-la-Joie.
« Allô, Maddy! » lança-t-elle en s'approchant pour enlacer sa sœur. « T'as encore grossi, on dirait une baleine! »
se moqua-t-elle gentiment. Madeleine rit avant de hausser les épaules.
« Je sais bien. C'est moi qui transporte ce poids-là, et je peux te dire que je me sens exactement comme une baleine, en effet.
Mais qu'est-ce que tu fais au village, toi? Tu m'as pas averti que tu revenais? Tout va bien? »
Soucieuse, Madeleine prit la main de sa sœur et s'avança vers la plage, où Arthur tentait de suivre les grands, qui couraient un peu partout. Au village, tous les enfants jouaient ensemble entre les tâches qu'ils accomplissaient auprès de leurs parents. Certains garçons plus vieux, comme Florian et Réginald Gingras, étaient maintenant matelots sur la barge de leur oncle. Comme la plupart des gamins de cet âge, ils avaient quitté l'école avec bonheur. Clément salua Émile d'un hochement de tête, avant de se serrer contre sa sœur. Elle décida de dévoiler la vérité sans plus attendre.
« Disons que j'avais besoin de vous voir. Sylvestre m'a quitté. »
annonça-t-elle à voix basse. En prononçant ces paroles, la femme sentit ses jambes fléchir, et Madeleine lui serra le bras pour la soutenir. La plus âgée posa ses yeux noisettes sur le visage triste de sa sœur.
« Quitté? Pourquoi donc? Il t'aimait tellement, c'était évident. »
Clémence fixait la mère sans la voir. Les vagues venaient frapper le quai à sa droite avec fracas, et les oiseaux marins criaillaient leur impatience en attendant que les premières barges reviennent dans la baie. Elle allait répondre lorsqu'un cri derrière les deux femmes l'en empêcha.
« Clémence, quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais ici? »
Se retournant le cœur battant, Madeleine fit un sourire à sa jumelle, qui ne la regarda pas. Aussitôt, son visage se referma avec peine, et elle recula un peu derrière sa cadette pour éviter une attaque verbale de Simone. Mais cette dernière était préoccupée par la présence de Clémence, et elle réitéra sa question. Soupirant profondément pour essayer de contrôler les tremblements de sa voix, la jeune répondit
« J'ai besoin de vous autres. Sylvestre m'a quitté, »
répéta-t-elle.
« Il veut plus de moi.